Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien, surtout, n'hésitez pas. Appelez-nous ici à Paris et nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts au sein de la rédaction vous répondent en direct. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Et puis, dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons tout à l'heure de la mobilisation de la société civile en Afrique avec en toile de fond la création du FISPA, le Front International des Sociétés Civiles Panafricaines. Cette coalition d'une quinzaine d'associations ouest-africaines qui est d'ailleurs parrainée par le chanteur ivoirien Tikenja Fakoli. Eh bien, cette coalition entend se mobiliser contre les troisièmes mandats des chefs d'État, contre le franc CFA et contre Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, le FISPA affirme avoir déposé samedi dernier une plainte au auprès de la Cour pénale internationale contre l'ancien président français pour avoir déclenché la guerre en Libye et entraîné la mort de Muammar Kadhafi. Alors que vous inspirent ces initiatives? Parlez-nous justement du rôle et du poids de ces associations dans votre pays. Vous nous appelez évidemment au 33 9 693 693 70 et on se fera un plaisir de vous donner la parole. On va passer au standard avec une première question. On va s'intéresser à la lutte contre les djihadistes au Niger. Bonjour Al-Mokhtar.
Alors bonjour Yohan, bonjour les auditeurs.
Vous êtes au Mali, vous nous appelez de Bandiagara exactement.
Oui, j'appelle de Bandiagara.
On vous écoute.
Les soldats américains et nigériens ont été tués au village de Tongo-Tongo, près de la frontière malienne. Alors je veux savoir quelle est l'implication des soldats américains au Niger. Est-ce que cette attaque pourrait pousser les États-Unis à investir dans le G5 Sahel?
Alors, trois Américains, effectivement, et quatre soldats nigériens ont été tués dans une embuscade tendue par des terroristes. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Spécialiste des questions militaires à RFI. C'est la première fois que des soldats américains meurent au combat dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. C'est donc, du coup, la première fois qu'une présence opérationnelle de l'armée américaine est reconnue dans cette région. Que savez-vous, justement, de la présence des soldats américains au Niger?
Alors, en fait, c'est une présence qui ne date pas d'hier, puisque elle avait été un peu médiatisé à partir de 2012 avec l'arrivée de drones américains sur l'aéroport de Niamey. Donc là, c'était un peu difficile de les cacher puisque, étant donné qu'ils utilisent la même piste que celle de l'aéroport international, ça se voyait. Donc ces drones ont été installés avec, évidemment, les soldats, les techniciens et les pilotes de drones qui vont avec sur la base de Niamey. À partir de 2015, le Pentagone a décidé de déménager ces drones et de les installer à Agadez, donc beaucoup plus au nord, essentiellement parce que c'est plus près de leur zone d'action, on pense que c'est quand même pas mal le sud libyen, et aussi parce que c'est plus discret, parce que ça permet, en étant un peu au sud du terrain d'Agadez, de pouvoir mener des actions, particulièrement de nuit, sans forcément utiliser la piste d'un aéroport international.
Et concernant les troupes au sol?
Alors concernant les troupes au sol, on sait depuis là aussi le début de la décennie que les Américains mènent des opérations, des missions d'entraînement, de mise à niveau, de formation des soldats nigériens. Alors ça, c'était plutôt du coup par coup des choses ponctuelles, voire des exercices comme l'exercice Flintlock, qui est un gros exercice régional qui se déroule tantôt au Mali, tantôt en Mauritanie, tantôt au Niger. Et là, l'Africom nous dit, eh bien, nous soutenons 800 soldats de toutes les spécialités, 800 soldats américains au Niger. Donc ça fait quand même beaucoup, parce que ça fait plus que la présence française au Niger, à la fois sur la base de Niamey, puisque les Français sont aussi sur la base de Niamey, et sur la base de Madama dans l'extrême nord, et puis également sur quelques petits points avancés dans le pays.
Donc 800, ça fait beaucoup. 800 soldats américains déployés au Niger, ils font
quoi? Toutes spécialités confondues.
Toutes spécialités, mais ils font quoi concrètement?
Alors là, en l'occurrence, quand on regarde ce qui s'est passé à Tongo-Tongo, on se rend compte que les soldats qui sont déployés, c'est quand même des forces spéciales, Donc c'est pas le soldat de base qui fait de la formation de base pour le soldat nigérien, ce sont des gens qui font de ce qu'on appelle de la formation et de l'accompagnement au combat, c'est-à-dire qu'en réalité, ils accompagnent un partenaire, les forces spéciales choisissent un partenaire, dans l'occurrence c'est des unités de l'armée nigérienne, qui constituent le plus gros des forces, et eux les accompagnent, et les accompagnent là, en l'occurrence, au combat, ils ont été amenés à combattre, puisqu'ils sont tombés dans une embuscade.
Enfin, le porte-parole de l'Africom a expliqué que c'était une opération de routine dans une zone à bas risque.
Alors ça, c'est assez surprenant. Une fois de plus, l'unité en question, l'unité américaine, c'est le 3e SFG, le 3e Special Force Group. Donc quand même, c'est une unité qui était jusque-là impliquée en Afghanistan et qui est de retour depuis 2015 en Afrique. Donc ce sont des gens sérieux. Et la zone où a eu lieu l'embuscade, c'est une zone d'action très connue de IGS, EI pour le Grand Sahara, conduite par le chef de guerre Abou Aïd al-Sahraoui. Juste un rappel, depuis plusieurs mois, toute la zone frontalière, donc toute la zone où a eu lieu cet accrochage est placée sous état d'urgence. Et en février déjà, une quinzaine de soldats nigériens avaient trouvé la mort dans une embuscade finalement assez similaire et assez bien montée. C'était à Tiloa. À Tiloa, j'ai regardé sur la carte, en fait c'est à quelques kilomètres de Tongo-Tongo, donc c'est exactement au même endroit.
Ouais, dans la même zone. Al-Mokhtar nous demandait si après cette embuscade d'une rare violence, il faut le dire, le président américain Donald Trump peut décider de financer la force africaine du G5 Sahel qui est censée prochainement se déployer.
C'est une bonne question, parce qu'effectivement on a vu quelques réticences du côté des Américains et du côté de l'ONU à financer cette force. Moi je vois deux possibilités. Ou bien les Américains considèrent que la force du G5 c'est une bonne idée, ça sera efficace, comme le dit le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et dans ce cas-là effectivement ils pourraient soutenir plus activement la force. Ou bien ils se disent que cette force n'est pas forcément efficace et fiable, et donc dans ce cas-là ils feront davantage pour soutenir eux-mêmes leur propre force, ou alors travailler de manière encore plus étroite avec les forces spéciales françaises. C'est ce qui se fait déjà sur le terrain au Niger.
On a répondu à vos questions, Al-Mokhtar.
Oui, on a répondu à mes questions, mais je voudrais tout simplement remercier la société civile africaine pour le courage. La victoire symbolique est pas mal, merci.
Bon, merci à vous.
Affaire à suivre, parce qu'il y a des opérations qui ont été lancées juste après cette embuscade.
Bien, on suivra tout ça évidemment, notamment avec vous, Olivier Four, spécialiste des questions militaires. Vos questions à la rédaction, il est 10h17 ici à Paris, 33 9 693 693 70. William Deleceux, journaliste au service santé et sciences de RFI, nous rejoint. Bonjour William.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio. Je me fais le porte-parole de Kevin, puisque visiblement, on a Kevin, alors on n'a pas Kevin, oui, parce que Kevin décroche, mais ça coupe dans la foulée. On a des problèmes, voilà, de réseau téléphone avec Lubumbashi dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vais donc évidemment me faire son porte-parole. Kevin qui a des questions sur l'épidémie de peste à Madagascar. Déjà 48 morts, hein, selon le dernier bilan officiel. Et il nous dit concrètement que fait le gouvernement, que met-il en place pour protéger la population. C'est vrai que depuis les années 80, à cette saison, la peste ressurgit à Madagascar, mais cette fois, visiblement, le risque de prolifération est très élevé, puisque pour une fois, la peste s'attaque aux grandes villes et notamment à Antananarive, la capitale.
Oui, il y a eu ce changement sémantique dans les mots du président malgache qui parle maintenant d'une guerre contre la peste. Il a surtout appelé au calme, hein, parce que dans les rues et dans les réseaux et sur les réseaux sociaux, pardon, c'est vraiment la panique. Les pharmacies sont prises d'assaut, les hôpitaux aussi. Le gouvernement a commencé à prendre plusieurs mesures assez drastiques. Le confinement, la quarantaine, qui ont été, comme d'habitude, les solutions privilégiées. Ça commence aussi avec des fermetures de lieux publics dès la fin de la semaine dernière. Deux universités ont fermé en même temps à Antananarive, la capitale. Ce sont 7 prisons ensuite qui ont été confinées. Les détenus ne peuvent plus recevoir de visites. Et la rentrée scolaire a été repoussée au 16 octobre. Le 16 octobre, c'est lundi prochain. Elle pourrait être repoussée encore une fois. En fait, ce que le gouvernement veut à tout prix éviter, vous l'avez dit, c'est dans les grandes villes, hein, que l'infection se propage le plus vite, c'est la multiplication des zones de contact entre les populations. La peste est une bactérie. Cette année, elle est visiblement plus virulente et c'est ce qui a vraiment surpris le gouvernement malgache cette année.
Ouais, et justement, est-ce qu'on connaît les raisons de la violence de l'épidémie cette année?
Alors, il y a deux formes de peste. C'est un petit peu technique. Il y a la peste bubonique déjà. Les médecins la connaissent bien. C'est un peu la peste moyenâgeuse. Hein. C'est la vieille peste qu'on connaît très bien. Les personnels des hôpitaux sont formés aux symptômes de la première forme. C'était la plus répandue, celle qui revient depuis les années 80, vous l'avez dit. Sauf que cette année, tout a changé. La peste, elle est plus violente. Elle se transmet beaucoup plus facilement. C'est la deuxième forme, la peste pulmonaire, qui a en quelque sorte pris le pas sur cette première forme bubonique. Et à la peste pulmonaire, le gouvernement, il faut bien le dire, n'y était pas, mais alors pas du tout préparé.
On peut peut-être rappeler, William Deleuceux, les symptômes justement de cette forme pulmonaire.
C'est un peu tout le problème, parce que cette peste pulmonaire, elle est assez invisible, elle ressemble à une grippe ou... En mieux, à un gros rhume, sauf que les malades peuvent mourir en 2 ou 3 jours seulement. Et dès ces symptômes-là, il faut rester chez soi, appeler un médecin. La peste qui est maintenant dans les grandes villes, ça se propage beaucoup plus vite. L'hôpital principal d'Antananarivo est débordé. Le bilan, lui, s'alourdit de jour en jour. Près de 500 cas de peste sont déjà signalés, selon le ministère de la Santé sur place. La dernière réponse vient de l'OMS, qui parle bien d'une épidémie, pas encore d'une pandémie. L'Organisation mondiale de la santé évoque l'envoi de doses d'antibiotiques pour à terme soigner 5000 malades, oui voilà, c'est ça. Elles sont gratuites, mises à disposition des malades, ce qui permet en quelque sorte, pour revenir à la question de l'auditeur, de protéger la population.
Et justement, Kevin, qui doit nous écouter à Lubumbashi, nous demande quels sont les moyens pour la population de se protéger.
Alors il y a des conseils très pratiques, très concrets. Déjà, éviter le contact avec les rongeurs, les souris, les rats, ce sont leurs puces, ils portent souvent des puces, ces rongeurs, qui transmettent en premier la fameuse bactérie. La réponse, en fait, vient surtout des malades, il faut qu'ils restent absolument confinés. Qu'ils ne sortent pas dans la rue, surtout que ces malades n'entrent pas en contact avec des personnes saines. Simplement en toussant, un membre infecté au sein d'une famille, par exemple, peut contaminer ses proches. C'est encore plus vrai au travail, dans les transports, les lieux publics, qui encore une fois sont ouverts dans des conditions particulières ou fermés par précaution. Sinon, les précautions sanitaires sont difficiles à appliquer. Madagascar, c'est une île qui est pauvre et dont certaines zones sont parfois très insalubres. Se laver les mains, porter un masque, c'est le minimum, mais ça ne protège pas vraiment de la peste, qui se transmet majoritairement par la salive. Donc c'est très très facile de tomber malade.
Et je rappelle le dernier bilan officiel, 48 morts. Merci beaucoup William Deleuceux. Kevin, j'espère que vous avez pu entendre l'oreille collée au transistor, toutes nos explications. Vous souhaite évidemment une bonne journée à Lubumbashi. On poursuit avec vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions sur la crise catalane après le référendum sur l'indépendance et après la déclaration hier du chef de l'exécutif catalan, puisqu'il a proclamé l'indépendance tout en suspendant le processus. Il a pour ainsi dire appuyé sur le bouton pause, il espère pouvoir négocier avec le pouvoir central de Madrid. Bonjour Djibrine.
Bonjour Jacques Gomez.
Merci de nous écouter à Abéché au Tchad. Nous vous écoutons, quelles sont vos questions?
Plusieurs entreprises et banques veulent quitter le Catalan. Comment se positionnent les patrons du Catalan par rapport à l'indépendance? Et quelles sont les conséquences de ce départ pour les Catalans?
Alors c'est vrai que les deux plus grandes banques centrales catalanes, Sabadell et Caixa, ont décidé de transférer leur siège social hors de Catalogne, comme d'autres entreprises, par exemple la compagnie du gaz, l'entreprise gestionnaire des autoroutes. Au total, une quinzaine d'entreprises réfléchissent en ce moment à un éventuel départ de la Catalogne. Bonjour Vincent Laborderie.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Louvain, spécialiste des mouvements indépendantistes. Peut-on dire que la panique gagne les entreprises installées en Catalogne?
Oui, un petit peu. C'est-à-dire, bon, pour répondre à la question de votre auditrice, les patrons catalans par rapport à l'indépendance, ils sont partagés. C'est-à-dire que les grands patrons, les chefs de grandes entreprises ont toujours été contre. Et ce qu'ils font aujourd'hui, le manifeste. Par contre, du côté des...
Contre l'indépendance.
Oui, tout à fait, tout à fait, contre le processus, contre l'indépendance. Et après, bon, il faut voir par contre qu'au niveau des petits patrons, les dirigeants de PME, les indépendants, etc., là, il y a un mouvement par contre qui est pro-indépendance. Bon, est-ce que c'est majoritaire ou pas, c'est difficile à dire, mais il y a un mouvement pro-indépendance. Mais en revanche, il faut distinguer l'indépendance en tant que telle et le processus qui y mène.
Oui.
Et là, avec un processus tel qu'il est enclenché, ou pas d'ailleurs, qui était une déclaration unilatérale d'indépendance, là, ça fait peur à tout le monde, y compris aux petits patrons, y compris au monde économique.
Et ce qui fait peur, c'est l'indépendance formelle, c'est-à-dire que la Catalogne sera obligée de sortir de l'Union européenne, et donc sortir de la zone euro, et forcément, ça fait peur aux chefs d'entreprise.
Oui, alors la Catalogne indépendante ne sortirait pas forcément de la zone euro, dans ce sens que même un État indépendant peut utiliser l'euro, même s'il ne fait pas partie de l'Union européenne.
Enfin, la Catalogne devra relancer tout le processus.
Oui, tout à fait.
Donc elle n'est pas prête de rester dans la zone euro, en tout cas, elle devra patienter plusieurs années.
Oui, mais le problème n'est pas vraiment la zone euro, c'est plutôt le marché commun. C'est-à-dire d'être dans le marché unique et donc d'avoir une libre circulation des marchandises de manière aussi simple qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est tout l'enjeu des discussions avec le Brexit aussi, qui est une autre manière de sortir de l'Union européenne. Et là, évidemment, ça fait très peur au monde économique, mais il n'y a pas seulement l'enjeu de l'Union européenne. C'est-à-dire que si on sort d'un pays, eh bien la loi du pays en question cesse de s'appliquer. On est dans une incertitude très importante.
Et si de plus en plus d'entreprises quittent la Catalogne, quelles peuvent être les conséquences pour la région ?
Alors, disons, ce qui s'est passé pour l'instant, les conséquences économiques ne sont pas très importantes parce que voilà, ce sont des sièges sociaux, donc évidemment ce sont des emplois, mais enfin c'est pas très important. Et je pense que l'idée c'est plutôt de faire pression aussi sur le gouvernement catalan pour qu'il n'aille pas plus loin et pour qu'on arrive à trouver une solution qui ne soit pas l'indépendance.
Merci Vincent Laborderie de nous avoir éclairé et d'avoir surtout répondu à Djibrine qui nous appelait de Béché au Tchad. Il nous reste 4 minutes, le temps d'accueillir un dernier auditeur ce matin pour les questions. Abdoul Rahim, bonjour.
Bonjour Monsieur Van.
Vous êtes en région parisienne, nous vous écoutons.
En fait, la société civile africaine se réunit à Bamako ce week-end pour déposer une plainte à la CPI contre Nicolas Sarkozy sur la mort de colonel Kadhafi.
Oui.
Donc la question de savoir quelles sont les chances pour que la plainte aboutisse contre Nicolas Sarkozy.
Ah, cette plainte déposée samedi par le Front international des sociétés civiles panafricaines sera-t-elle recevable ? Excellente question et vous avez été des dizaines d'ailleurs depuis 24 heures à nous la poser sur la page Facebook de l'émission. Bonjour Florent Gel.
Bonjour.
Responsable du bureau Afrique à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Une plainte contre Nicolas Sarkozy pour avoir déclenché la guerre en Libye, c'était en mars 2011, et pour avoir entraîné la mort de Muammar Kadhafi. Est-ce que cette initiative a une chance d'aboutir ?
Alors, devant la Cour pénale internationale, il y a peu de chances qu'elle aboutisse. Premièrement, parce qu'on ne saisit pas en tant qu'individu la Cour pénale internationale, seuls les États peuvent le faire, le Conseil de sécurité ou la procureure peut, elle, s'autosaisir. Par contre, il y a une situation qui est ouverte devant la Cour pénale internationale sur la Libye. Il y a d'ailleurs des mandats d'arrêt qui ont été délivrés. Et pourquoi pas, on pourrait imaginer que Nicolas Sarkozy puisse, sa responsabilité puisse être examinée. Mais il y a quand même peu de chance, il faut bien l'avouer. Ce qui pose d'ailleurs la question, cette plainte est plutôt un acte symbolique et politique pour poser la question de la responsabilité des dirigeants des États qui interviennent militairement, même s'ils le font sous le mandat des Nations Unies.
Oui, rappelons-le que l'ONU a donné son feu vert, c'était la fameuse résolution 1973.
Absolument, mais en même temps, ça n'empêche pas, notamment les parlements nationaux, de faire un examen des décisions qui sont prises par leurs dirigeants, en tout cas ça serait salutaire. Mais devant la Cour pénale internationale, malheureusement, peu de chances que ça aboutisse. Pour autant, il faut souligner une chose, c'est que la Cour pénale internationale, qui est très décriée pour paraître être sous la coupe des grandes nations internationales, va probablement ouvrir une enquête sur la situation en Afghanistan pour la responsabilité des forces internationales dans des crimes de guerre notamment qui auraient été commis par eux en Afghanistan. Et ça serait salutaire puisqu'effectivement l'idée c'est que aucune nation ne soit à l'abri l'examen de sa responsabilité, notamment pénale individuelle de leurs dirigeants, et pour faire en sorte que la Cour ne soit pas perçue comme un instrument de politique néocoloniale ou ayant de poids de mesure.
Et justement, s'agissant de cette plainte contre Nicolas Sarkozy, Tikenja Fakoli, chanteur ivoirien, parrain de cette nouvelle coalition d'associations de la société civile, Tikenja Fakoli disait sur notre antenne, si la CPI ne réagit pas, cela voudrait dire que la CPI choisit ses clients.
Non, pas exactement. La CPI a des règles d'action et il faut aussi déposer ce genre de demande et de plainte dans les règles pour qu'elle puisse aboutir.
Et puis, quand on dépose une plainte, il faut justifier que c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un crime de génocide. Il faut des preuves.
Absolument, c'est la compétence de la Cour. Donc il faut des preuves, il faut respecter la règle, mais il est évident aussi que la Cour pénale internationale doit faire preuve de son indépendance à l'égard notamment des grandes puissances. C'est pour ça qu'elle a ouvert un examen préliminaire par exemple sur la Palestine, sur la Géorgie contre la Russie, ou bien sur l'Afghanistan, comme je viens de mentionner. Et ça sera l'heure de la maturité et de la crédibilité de la Cour si elle le fait jusqu'au bout.
On va en parler tout à l'heure dans 10 minutes avec les auditeurs. Florent Gel, merci d'avoir été avec
avec nous, responsable du bureau Afrique à la FIDH. On va parler justement de cette plainte contre Nicolas Sarkozy, mais aussi des autres mobilisations du FISPA, le Front International des Sociétés Civiles Panafricaines. On se retrouve dans 10 minutes, juste après le journal.